Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Marie Lindman, je suis suédoise, j'ai été appelée par Raphaël Jeune pour l'accompagner sur le développement de volets sources une fois le protocole, on peut dire, déposé. Donc le choix des artistes était déjà effectué par Raphaël et j'ai plutôt eu un rôle oui, on peut parler de conseils et de partage d'expériences, étant donné que je travaille depuis une dizaine d'années dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire, qui a des similitudes avec le volet source. Donc, nous allons favoriser le débat lors de cette intervention. Vous pouvez nous interrompre, poser des questions. Et dans un premier temps, donc, je présente Damien Béguet, qui est un artiste français, né en 1970, qui vit à Lyon, qui a fait l'École de Beaux-Arts de Lyon, et qui commencera par une présentation de son travail, de manière générale, car par ce lien avec son travail en général, il peut nous donner des éléments assez intéressants sur le déroulement de sources au sein de l'entreprise Christian Faure, une entreprise qui produit des crêpes, parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de crêpes par jour, il me semble. Un million par jour, sous le label Crêpes Waouh. Et ensuite, on va laisser la parole à Nicolas Floch, qui est également né en 1970 et qui est originaire de la Bretagne, qui a été formé par contre à l'École de Beaux-Arts de Glasgow et qui vit actuellement à Paris, dont le projet est... Le projet de Nicolas Floch pour les ateliers de Rennes dépasse le volet strict des sources, mais le source entrepris avec l'entreprise de communication Le Gouès et Associés était le point de départ pour une problématique que nous allons donc aborder par la suite. Donc je laisse la parole à Damien, présenter ton travail dans un premier temps.
Bonjour, comme l'a présenté un petit peu Marie, je vous propose une présentation un peu rapide de ce que je fais pour un petit peu pouvoir mettre en perspective l'action que j'ai menée dans le cadre des sources et pour la Biennale d'art contemporain de Rennes. Donc vous avez à l'écran mon logo. Pour faire simple, mon terrain de jeu est l'entreprise comme forme générique et j'emprunte des logiques, des esthétiques et des modes opératoires propres aux entreprises et je me les réapproprie dans le milieu artistique. Et donc j'utilise un certain nombre d'outils dont le logotype et puis une marque que les responsables de communication appellent la signature de la marque, qui est le microclimat au-dessous de mon nom, qui est donc un peu l'équivalent du Just Do It chez Nike et qui est censé fabriquer un univers qui crée une valeur ajoutée et un peu qui fabrique de l'imaginaire autour de la marque. Donc, le logo a été fait par un graphiste et puis la marque Microclimat par un responsable de communication. Donc je me présente souvent comme artiste manager et je prends un petit peu le costume du manager. Ce qui m'intéresse, c'est d'entretenir une relation à l'entreprise qui n'est pas une relation sur un terrain moral, c'est-à-dire que j'emprunte des choses telles qu'elles existent, je les recontextualise très régulièrement dans le milieu artistique, et j'invite le spectateur, lui, à avoir son propre jugement moral par rapport à ce qui est mis en place. Donc c'est lui qui est censé se caler et porter un regard sur un univers et un monde en soi. Et donc juste le pourquoi je me suis intéressé à l'entreprise, c'est parce que je trouve qu'il y a un phénomène qui est relativement nouveau. En tout cas, le fait qu'il se généralise est nouveau, c'est que l'entreprise aujourd'hui devient un modèle organisationnel, un modèle pour mener un projet. Et ça n'a pas toujours été le cas, même dans un passé assez récent. C'est-à-dire que, comme exemple, une université, par exemple, se communique, s'approche de plus en plus de l'entreprise pour développer ses projets, pour exister au sein de communautés et des centres d'art, des musées, des théâtres, des mairies, des ministères aussi utilisent de plus en plus le modèle de l'entreprise pour exister. Alors que dans d'autres générations, elles avaient créé plutôt une différenciation pour développer sa propre identité. Et je trouve que ça, c'est un phénomène assez assez contemporain et qui est, je pense, qui est pas neutre. Et ça m'intéressait d'explorer ça. Et évidemment, pas d'amener une réponse et de se dire, ben, un artiste aussi, il n'y a pas de raison, peut utiliser l'entreprise comme modèle. Donc j'ai fait un certain nombre de cadeaux d'entreprise, des objets promotionnels avec le logo. Donc ça, c'est un cendrier qui a été produit par le Centre d'art de Montélimar et qui a été envoyé avec les dossiers de presse de l'exposition. Et donc toutes les rédactions en France et en Europe se sont retrouvées avec le même cendrier sur leur bureau. La plupart des journalistes l'ont gardé. Et donc c'est une façon d'occuper un terrain. Et c'est là où on se rend compte que, évidemment, les outils qu'utilise l'entreprise sont assez efficaces et redoutables, parce que c'est devenu assez rapidement mon projet le plus connu. Et donc voilà, et sinon j'ai reproduit ça avec des t-shirts, des tongs, j'ai fait un certain nombre de produits avec la marque. Là aussi, dans l'armée des éléments que j'utilise, il y a les publicités, et donc je demande à des magazines ou des journaux d'accueillir gratuitement mes publicités. Et donc celle-ci en fait partie, donc avec des slogans. Donc on a fait travailler les autres, sinon j'en ai d'autres avec mondialisons ensemble ou mettez de l'art dans votre vie, des choses de ce genre. Donc et j'ai d'autres outils. Là c'est vraiment un passage un peu éclair, une transversale à l'intérieur de mon travail. Donc j'ai fait des opérations de communication aussi en faisant des soirées de lancement avec cocktail. Donc j'ai un certain nombre d'outils utilisés comme ça pour un petit peu défendre et vendre ma marque. Ça, c'est un projet un peu spécifique. C'est une série qui s'appelle Parrain, et c'est un contrat de parrainage avec une entreprise privée ou publique. Et l'idée, c'est de peindre le logo sur un tableau, logo de l'entreprise qu'il finance. C'est-à-dire que c'est 1000 euros au mètre carré. Donc il suffit de payer pour avoir un droit d'affichage sur une œuvre. Et l'entreprise n'est pas propriétaire du tableau pour autant. Il a payé que le droit d'affichage. Et le tableau, lui, est vendu après dans le marché de l'art comme une œuvre à part entière. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre deux modèles économiques en parallèle. Un qui était très classique et qui appartient à ma communauté, donc qui est le marché de l'art, et un autre qui est une relation commerciale qui rentre pour l'entreprise dans une dépense de publicité, parce que le contrat de parrainage, à différence d'un contrat de mécénat, rentre dans la partie dépense en com. Et c'est et là le retour en termes d'image correspond au prix payé, c'est-à-dire que ce qui n'est pas le cas normalement dans le cadre du mécénat. Et donc voilà, et donc il y a eu plusieurs œuvres faites avec des institutions publiques ou privées. Un des modes opératoires de l'entreprise, c'est la sous-traitance. Et donc moi j'ai adopté ça et j'ai fait faire des tableaux par d'autres artistes en leur faisant signer un contrat de cessation de droit. Donc on devient le propriétaire moral de l'œuvre. Et donc c'est le propre de la sous-traitance qui pose des questions plus éthiques évidemment quand on est dans le champ de l'art et qui pose des questions de limites. Et donc ça, là on est quelque chose assez proche du droit, et en France la propriété intellectuelle, on peut tout à fait, c'est légal hein, de faire signer un contrat de cessation de droit. Par contre, de son vivant, l'artiste a un droit de repentir. Donc il pourrait contester le contrat que je lui ai fait signer, évidemment qui serait sujet à contrepartie financière, à évaluer le préjudice moral de ça. Donc ça prend en compte beaucoup de choses de cet ordre, mais c'est une question qui moi m'intéresse par rapport à l'idée de production d'œuvres. À quel moment, par exemple, une œuvre minimaliste produite par une entreprise où on plie une tôle en deux, à quel moment le geste devient artistique et à quel moment il ne l'est pas. Et évidemment, il y a une limite qui est évidemment un sujet d'interprétation. Donc évidemment, moi, dans la façon que je réponds à ça, je fixe aucune limite. Et l'entreprise, d'une façon générale, quand elle a un marché qu'elle le fait sous-traiter, dans la facture, le sous-traitant n'apparaît évidemment jamais. Alors là, c'est un autre rapport à l'entreprise. Et pour des raisons de financières, je fais des interventions, des séminaires de créativité dans les entreprises, et je me fais payer pour ça. Et ça a un double avantage, c'est que ça me permet de m'approcher des groupes et des gros groupes et de leurs stratégies, parce que ça reste des séminaires stratégiques et de développement, et ça me permet d'avoir donc une meilleure connaissance du milieu que j'utilise et que j'explore à l'intérieur de mon travail. Et donc je travaille avec une entreprise qui s'appelle Entrepart, qui est un consultant qui fait des séminaires et qui a pour habitude de faire intervenir les artistes dans l'entreprise. Et donc à différence des sources, c'est réellement de la prestation, c'est de la prestation de service. Et c'est l'idée, c'est de dire que entre les managers et les artistes, ils ont un certain nombre de points communs. Et en tout cas, s'ils veulent être dans un champ créatif, ils sont censés réinventer leur propre modèle, redéfinir le cadre, constituer une vision, et de là émergera ou pas quelque chose d'innovant. C'est-à-dire que ça a intégré dans le process de création au sein de l'entreprise l'idée de l'échec et l'idée de pouvoir changer son modèle en fonction du contexte. Donc c'est une chose, je pense que vous êtes culturellement assez habitué, qui l'est beaucoup moins dans le champ de l'entreprise. C'est-à-dire que le rapport au contexte, la contextualisation et la notion de modèle est quelque chose qui, au sein de l'entreprise, fait peur, parce que c'est évidemment, dès qu'on dit qu'il faut changer son modèle pour être innovant, il y a une notion de péril qui apparaît et qui rend les choses plus compliquées.
Je me rappelle de ta première réponse quand Raphaël t'as invité à participer au volet source. Tu nous avais rédigé un petit mail avec le texte suivant. J'aimerais faire un cadeau aux visiteurs de l'exposition. J'aimerais offrir un goûter échantillon comprenant le slogan « C'est encore mieux avec de l'art ». L'emballage pourrait être une création en lien avec la marque associée. En configuration de l'exposition, j'aimerais valoriser la marque qui m'aurait accompagnée tout au long de cette résidence. C'est une idée qui peut changer au fil des rencontres et en fonction de différentes interactions. Donc c'est le cas de le dire, parce qu'on va pouvoir peut-être après l'intervention de Nicolas revenir sur l'ensemble des modifications qui ont eu lieu. Pour justement, on a découvert sur le terrain les limites du parrainage, les limites du mécénat, les limites aussi de l'intervention d'un artiste au sein d'une entreprise, justement invité, en tout cas identifié par le personnel de l'entreprise comme invité par le patron. Et c'est quelque chose qui est très cristallisé aussi sur le source de Damien Béguet, étant donné que Damien a essentiellement mené sa collaboration avec le patron de l'entreprise, Christian Faure. Donc, avec Christian Faure. Donc, c'est intéressant peut-être maintenant de faire un parallèle avec le source de Nicolas Floch, qui partait d'une invitation, donc, encore une fois, de Raphaël, et qui, au fur et à mesure, a été modelée sur le terrain pour finalement devenir un projet très ambitieux qui est montré actuellement au musée de Rennes. Donc, il s'agit de la création d'un filet pélagique qui prend la forme de la tour Eiffel. Donc, plusieurs étapes contraignantes consistaient à faire réaliser une maquette, une étude d'abord numérique et ensuite la réalisation d'une maquette qui a un certain prix, tester ces maquettes dans des bassins, passer en phase de réalisation de filets qui a donc les dimensions exactes de la tour Eiffel, partir en pêche avec le filet, vérifier que le filet est pêchant, et ensuite entreprendre ce travail avec une entreprise de communication fondée en fait sur le fait que le filet n'est jamais réellement visible. Le filet est toujours sous les eaux ou en tas, comme c'est actuellement le cas au musée. Donc je te laisse la parole.
Bonjour. Je vais essayer, peut-être pour commencer, de replacer un peu comment les choses se sont faites au départ. Quand Raphaël m'a invité à participer à la biennale, elle m'a proposé d'être en résidence dans une entreprise. Et une des premières réactions que j'ai eues, et je pense que le projet au final est un petit peu le reflet de ça, c'est que je crois, et c'est un aspect aussi qui m'intéressait dans ce projet, c'est qu'aujourd'hui, un artiste peut travailler et travaille régulièrement avec des entreprises ou en collaboration avec des entreprises, mais ça ne se limite pas forcément à une entreprise, à une seule. Et c'est souvent un processus aussi. Donc, dans ce sens, le fait de travailler avec plusieurs entreprises m'intéressait au départ. Les premières idées que j'ai eues pour la biennale, je voulais transformer des sculptures en fait de l'art minimal, par exemple des sols Lewitt, en engins de pêche, c'est-à-dire bon, pourrait transformer par exemple des sols Lewitt en casier, ce qui impliquait aussi ce processus de fabrication d'un objet, ensuite d'aller le tester en mer. Il y avait un peu, je dirais, la même chose. Et en pensant à ces projets, petit à petit, j'en suis arrivé à cette proposition de transformer la tour Eiffel en fait en un filet fonctionnel et pêchant. À ce moment-là, On n'était pas du tout sûr de l'endroit où la résidence source se ferait. Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait éventuellement la possibilité du fabricant de filets, mais il y avait cette idée aussi dans la proposition de Raphaël, vraiment dans un rapport d'échange et de travail en commun avec l'entreprise, ce qui pouvait se faire sur le développement du filet, parce qu'il y a vraiment eu une étape de recherche avec le Bresen, et on a travaillé avec l'ingénieur de le Bresen, qui d'ailleurs a vraiment porté le projet au sein de l'entreprise, parce que la direction de l'entreprise n'était pas spécialement pour le projet, mais l'ingénieur était très très intéressé à développer ce filet et à travailler avec moi sur ce filet. Donc la possibilité d'être en résidence chez le Dresden était assez difficile en fonction aussi en raison de la situation actuelle du milieu de la pêche et de tout ce qui l'entoure, et donc de la crise que traverse ce monde-là. Et à ce moment-là, la possibilité de travailler avec une entreprise de communication est apparue, ce qui me paraissait complètement logique par rapport au projet, puisque c'était travailler en même temps sur la disparition d'un objet ou sur un objet qui est extrêmement visible et qui est presque phare, je dirais, et qui disparaît, donc qui devient invisible en fait, enfin invisible dans sa forme déployée en tout cas, puisque dès le départ, c'était pour moi clair que le filet ne serait pas montré déployé. C'est pas que ça ne soit pas possible, c'est pas simple pour le déployer parce qu'il est quand même gigantesque, mais il y aurait eu d'autres modes de présentation, mais je voulais vraiment être dans un rapport, je dirais, non spectaculaire, dans un rapport presque déceptif par rapport à l'objet, et qu'il y ait toute une part que le spectateur puisse reconstituer, ou que l'imaginaire du spectateur fonctionne réellement par rapport à ce projet. Donc, à partir de là, la possibilité de travailler avec une entreprise de communication est apparue, et ça me paraissait aussi assez logique dans la mesure où une communication se fait forcément sur quelque chose, et la nécessité, c'est-à-dire que la résidence dépassait le cadre même de l'entreprise de communication, c'est-à-dire que c'était pas simplement communiquer sur une chose, mais c'était aussi fabriquer la chose pour pouvoir faire la communication. J'essaie un peu de résumer globalement pour situer les choses, hein, parce que c'est quand même un projet assez long et assez complexe. Ensuite, dans l'entreprise de communication, on a commencé à travailler avec le GOES tout au début du projet. J'avais, au sein de l'entreprise, il y avait une personne que je pouvais rencontrer régulièrement, c'est-à-dire je ne rencontrais pas l'ensemble de l'entreprise, j'avais principalement un interlocuteur, qui était Thomas Chast, et avec Thomas on a commencé à parler de ce qui pouvait ce que pourrait être cette communication. Donc au départ on est parti sur quelque chose qui allait être autour du filet ou autour du projet lui-même, et Thomas restait dans des schémas, je dirais, assez classiques, et avait besoin que je définisse une sorte de cahier des charges, comme pourrait le faire un commanditaire d'une campagne de communication.
Ses objectifs, hein.
Et pour moi, c'était extrêmement difficile de dire je vise tel public, je veux développer tel... C'était quelque chose de... Je voulais plus rentrer dans un échange. Et c'est vrai que Ça n'a pas été extrêmement, je dirais, on n'est pas rentré dans un vrai dialogue. On a eu du mal à rentrer dans une vraie discussion. Alors, je ne sais pas si ça vient du projet, si ça vient de l'investissement de l'entreprise, si ça vient de mon investissement à moi. On a discuté de certaines possibilités, mais j'ai eu l'impression que l'entreprise avait vraiment du mal à rentrer dans un dialogue qui sorte des schémas habituels. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans les schémas classiques de l'entreprise. Donc à partir de là, Thomas a évoqué toutes les possibilités et a ouvert une sorte de il m'a parlé de teaser ou d'affiche qui pourrait renvoyer à l'exposition, mais ne pas être forcément une communication directe sur l'exposition. Et on a, en évoquant toujours des affiches qui pourraient présenter des éléments du projet. Et quelques temps après, j'ai eu cette idée d'affiche. Je pourrais vous montrer tout à l'heure des images, peut-être que certains d'entre vous les ont vues dans Rennes. J'ai eu une idée précise qu'on a mis en place et qu'on a réalisée qui est en place aujourd'hui. Donc voilà, très je dirais, pour survoler l'ensemble du projet et le déroulement, enfin voilà une première impression.
Toi, Damien, tu étais très attiré par l'image de l'entreprise de Christian Faure. Et finalement, tu as choisi, parce que c'est le cadre, le protocole des sources, tu as choisi cette entreprise grâce à cette image, grâce à cette mascotte dont l'entreprise s'est dotée et qui te motivait, parce que c'était une image en absence de toute connotation folklorique ou en absence d'un lien avec la cuisine traditionnelle ou avec les tartes, les crêpes bretonnes, etc.
Oui, dans le choix de l'entreprise, un de mes premiers critères, c'était d'avoir une entreprise qui ne communiquait pas sur une tradition, mais sur un produit plus universel et qui a une image internationale. L'idée de travailler sur les formes génériques, justement, implique cette contrainte. Donc ça faisait vraiment partie. Et en plus, les crêpes Wahou ont une forme de communication qui me paraissait drôle et décalée. Et je trouvais que dans l'idée d'étirer leur marque vers une nouvelle ou vers autre chose, il y avait de la place pour ça. Donc c'est pour ça. Mais au-delà de ça, mon choix s'est réellement arrêté sur Wahou. C'était une entreprise du groupe qui cofinance la Biennale, donc du groupe Norac, qui ont un certain nombre d'entreprises. Et je trouvais que c'était intéressant de rentrer dans cette histoire. C'est-à-dire qu'un artiste qui, a priori, est un élément autonome, qui ne rentre pas dans un plan ni stratégique ni politique vis-à-vis de l'entreprise, et ben là, pour le coup, devient soit un sujet d'instrumentalisation ou rentre dans un jeu de dialogue entre un DG d'une boîte et son directeur de son patron, d'une certaine façon, qui est son directeur de groupe. Évidemment, il y a un dialogue un peu particulier qui se crée parce que il y en a un qui défend une biennale d'art contemporain et l'autre qui défend son entreprise au sein d'un groupe.
Voilà.
Et donc on rentre un peu dans un rapport. Et évidemment, moi en tant qu'artiste invité là-dedans, je rentre d'une certaine façon dans cette histoire. Et ça m'intéressait.
Et oui, avec délectation, tu étais instrumentalisé dans ce triangulaire en quelque
c'est ça.
Sorte.
Ouais.
Donc tu peux nous raconter, tu es un des artistes qui a réalisé un séjour long qui a commencé déjà en novembre 2007. Mmh. Tu es revenu à 5 reprises dans l'entreprise. Tu es resté une semaine à chaque fois.
C'est ça. Mmh. Donc, juste un petit détour par une résidence que j'ai faite pendant 2 ans sur le campus d'HEC. Et donc qui est aussi alors c'est pas une entreprise commerciale, ça reste vraiment une université, mais le j'avais à peu près la même logique, c'est-à-dire que j'y allais à peu près une semaine tous les mois et pendant 2 ans, et c'est un rapport à la quotidienneté qui est assez intéressant. Quand on observe une entreprise par exemple qui est prestataire, on n'entretient pas ce rapport quotidien, et évidemment on voit apparaître un certain nombre de choses qu'on ne verrait pas apparaître autrement. Évidemment, et c'est au-delà d'être une structure, un organigramme, une entreprise, c'est aussi une structure psychologique avec des questions de leadership et puis de pouvoir et de terrain qui sont assez intéressants à observer. Et quand on est un artiste dans une entreprise, là on est vraiment une pièce extérieure, on a une sorte un électron libre qui échappe d'une certaine façon à tout ça. Et c'est un enjeu assez intéressant parce que c'est ça oblige l'entreprise à avoir un regard extérieur aussi sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle accepte ce regard. Donc ça c'est un élément, les entreprises qui ont accepté, c'est un peu pour rebondir sur ce que disait Raphaël ce matin, par exemple sur le refus de Peugeot ou des choses comme ça, c'est qu'une entreprise qui se sent pas très bien dans sa représentation en interne ou en externe aura beaucoup plus de difficultés à faire entrer un artiste dans ses murs qu'une entreprise qui se sent bien avec elle-même et avec les autres.
Et avec son chiffre d'affaires aussi.
Et avec un chiffre d'affaires qui crée aucune ambiguïté, qui peut investir sur un projet de ce type sans que ça pose problème à n'importe qui d'entreprise.
Tout en sachant qu'il y a plusieurs entreprises qui, de toute petite taille, qui ont participé en dehors de la logique du mécénat. C'est une parenthèse. Tu arrives dans l'entreprise, tu rencontres le directeur.
Désolé pour la faute d'orthographe, je l'ai pas vu passer. Je choisis donc une entreprise du groupe. Donc là, vous avez, il y avait 2 entreprises qui pouvaient dans le groupe qui pouvaient m'intéresser, c'était Waouh et la boulangère. Mais Waouh pour les critères que j'ai cités un peu avant, me paraissait mieux adapté. Et j'arrive donc dans une entreprise d'agroalimentaire. Je découvre un petit peu comment elle fonctionne, d'un point de vue technique et d'un point de vue humain. Et très vite, j'ai un interlocuteur privilégié qui est le directeur et le fondateur de la société, qui est Christian Faure, qui a donné le nom à sa société. Il l'a vendu à un groupe Norac, et puis chose particulière, il est resté le directeur de l'entreprise qu'il a vendue. Et il l'a vendue, je ne sais pas exactement, mais ça fait au moins 15 ou 20 ans. Donc ça fait longtemps qu'il entretient un rapport passionnel avec un truc qu'il a créé, mais à la fois qui ne lui appartient plus. Et donc là aussi, je rentre d'une certaine façon dans cette histoire et je la découvre évidemment au fur et à mesure. Et j'apprends aussi ce qu'est une entreprise d'agroalimentaire avec ses contraintes, entre autres, et donc évidemment il faut jouer le jeu de l'entreprise, et de toute façon j'étais pas là pour ne pas le jouer, et puis pour défendre ce que j'avais envie de faire. Donc c'était de réellement créer un nouveau produit. Donc créer un nouveau produit, ça veut dire essayer d'impliquer le maximum d'acteurs au sein de l'entreprise, parce qu'on va créer une nouvelle recette, à résoudre des problèmes techniques liés à cette nouvelle recette, créer un emballage et penser jusqu'à sa distribution dans la biennale. Donc ça demande d'avoir un ensemble d'interlocuteurs et ce qui permet d'être totalement transversal au sein de l'entreprise.
Donc ce qui est assez paradoxal, c'est le rapport que tu as avec le directeur de cette entreprise. Il faut le souligner, c'est quelqu'un qui est véritablement passionné par son domaine. Il est passionné par les crêpes. Il est passionné par l'économie de la crêpe agroalimentaire. Et il était extrêmement motivé par la possibilité de à la fois faire plaisir en quelque sorte à son hiérarchie et en même temps pouvoir avoir les rênes libres pour élaborer une nouvelle recette et expérimenter une nouvelle manière aussi de congeler ce produit, ce qui était donc une occasion pour lui de se lancer dans un domaine qui était un domaine de prospection encore au stade quand nous l'avons rencontré la première fois.
Ouais, c'est un peu particulier pour comprendre peut-être un peu mieux ce qui est la logique du directeur de cette boîte. En dehors d'entretenir une relation stratégique avec Caron, c'est-à-dire le directeur de Norac, donc déjà en soi peut être une motivation d'accepter un tel projet, mais il s'est totalement investi dans ce projet. Et même au-delà de mes espérances, mais même au-delà du projet. C'est-à-dire que pour lui, moi, dans mon process, la crêpe était un élément parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il intervient dans un process qui correspond aussi à une stratégie, une opération de communication d'un artiste au sein d'une exposition d'art contemporain. Et ça, c'est une notion qui l'a échappé au profit de la crêpe elle-même. Pour lui, la valeur ajoutée artistique était sur la qualité gustative de la crêpe. Mmh. Et donc, il s'est investi totalement là-dedans, ne sortant pas de son propre modèle par rapport à ça. Alors que ça reste quelqu'un d'extrêmement créatif dans son modèle, dans son domaine. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de tabou particulier, qui a une grande facilité à franchir des barrières, parce que lui, par exemple, il avait fait des essais d'une crêpe avec du kiri à la fraise. Donc tout est possible, il suffit d'essayer et puis après on voit. Donc c'est un personnage qui est assez attachant en fait pour ça.
Et là on voit cette question qu'on a abordée avant que la table ronde commence. Justement, toi tu parlais d'un malentendu, on peut l'exprimer comme ça. Je pense que Raphaël ce matin elle parlait de la coprésence des deux acteurs. La personne moteur de projet au sein de l'entreprise, une personne de la direction, mais dans certains cas c'est aussi une autre personne, et l'entreprise a décidé de suivre la motivation de Madame Biard, je crois, de Keolis, dont tu parlais ce matin. Donc on a peut-être un exemple en parallèle avec l'entreprise Sulky, où c'est essentiellement le directeur de produit qui était le moteur de projet. Et moi, mon interprétation, c'est que le directeur, Monsieur Sulky, Monsieur Burel plutôt, était intéressé par le fait de suivre son directeur de production dans un premier temps. Ensuite, il a été très très enthousiaste lui-même devant le projet, mais au début, ce qui déclenchait la motivation des entreprises pouvait aussi être quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise que le directeur.
Et juste pour finir un peu sur l'engagement, par exemple, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai demandé de pouvoir faire une conférence un petit peu pour présenter mon travail, savoir qui j'étais et puis pourquoi j'étais là. et ce que j'attendais un petit peu de cette collaboration. Donc le directeur a accepté, il a dit ça serait bien que tout le monde soit là, donc il a rendu en effet obligatoire la, pour ces trois équipes, parce que c'est une entreprise en 3-8, et donc pour ces trois équipes de faire, d'assister à ma présentation. Il a dit je payerai l'heure, ce sera une heure travaillée, mais j'aimerais bien que tout le monde soit là. Donc c'est donc aussi sa passion, c'est quand il est à fond dans un truc, il veut que tout le monde soit à fond aussi derrière. C'est-à-dire que c'est son type managérial joue là-dessus. Ce qui fait que
c'est très paternaliste.
Hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi une forme de pression, c'est une forme de reine. C'est de dire que quand on a quelqu'un de totalement passionné en face, c'est très difficile de dire non, d'une certaine façon. Et je pense que c'est une forme de stratégie, une forme de reine, oui. En effet. Et il y a un passage qui est intéressant dans la vidéo de Marie Voynier, donc qui est présente au couvent. Où Christian Faure dit de toute façon on s'en fout du prix, on n'a pas de contrainte de prix, c'est voilà. Pas le problème. S'il faut aller chez Mampeur et prendre 50 personnes pour faire des crêpes roulées à la main, on le fera. L'important c'est que l'artiste soit content et donc c'est là où on se rend compte qu'on vit pas tout à fait dans le même monde et surtout pas avec les mêmes contraintes. C'est que lui, quand il crée une nouvelle crêpe qui va être commercialisée, la nouvelle crêpe sera peut-être tirée dans l'année à 30 millions ou peut-être 100 millions ou 150 millions d'exemplaires. Et ce qui fait que le gramme de beurre, le moindre élément cher est un élément qui rentre dans le process. Et là, ils sont très regardants sur l'aspect financier. Mais sur une opération de ce type, d'ordre exceptionnel, pour eux, c'est une dépense complètement anecdotique. Et si ça doit coûter le double ou le triple de ce qui était prévu au départ, ce n'est pas un problème. Moi, au début, je voulais un vidéoprojecteur pour faire ma conférence auprès des salariés et il me fait on n'en a pas, c'est pas grave, on en achètera un. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il y en avait un au fond d'un placard et s'en était jamais servi. Donc, voilà, on n'est pas soumis du tout aux mêmes contraintes et c'est assez intéressant justement qu'eux, ils ont des vraies contraintes financières. Mais qui ne se pose pas du tout de la même façon.
Si on revient un peu sur Nicolas, moi je me souviens quand je t'ai rencontré au début de ce projet, la genèse en quelque sorte, tu le situais, même si aujourd'hui tu contestais un peu ce point de vue que je te proposais. Moi, je comprenais légèrement la genèse de ce projet dans une expérience que tu avais fait au CACP de Bordeaux avec l'exposition d'un filet pélagique dans les espaces de musée.
Enfin, je dirais oui, c'est-à-dire que c'est. J'ai fait deux pièces qui peuvent être directement en relation avec ce projet. J'en ai fait une en 95 qui faisait partie des écritures productives, c'est-à-dire qu'avec un bateau de pêche, on a écrit le mot poisson en pêche pour pêcher du poisson. On l'a écrit, c'est-à-dire qu'on a utilisé le GPS. Enfin, à l'époque, les voitures n'étaient pas équipées, il n'y avait que certains métiers très spécialisés qui avaient les GPS. Et donc les cartes marines étaient sur un ordinateur et il y avait des tracés de pêche habituels que les pêcheurs suivaient en général. Donc on a fait un calque avec le mot poisson qu'on a suivi en pêche. On a mis 7 heures à écrire le mot, il y avait 40 km de tracé en tout. Et donc on a écrit le mot poisson et sur l'écriture de ce mot, on a pêché 500 kg de poisson à peu près. qui a ensuite été vendu au marché. Donc ça faisait partie en fait des écritures productives. Les écritures productives, à chaque fois le mot produisait ce qu'il désignait. Donc j'avais par exemple planté des salades qui écrivaient le mot salade, et donc le mot salade produisait des salades. Je l'ai fait avec des tournesols, je l'ai fait avec des fleurs, avec différentes choses. Et ensuite je vendais ces produits sur le marché en tant que produit art, en donnant un certificat qui prouvait qu'il s'agissait d'un produit art authentique, et en demandant aux personnes, si elles le voulaient bien, de me faire parvenir une image, une image ou un document lorsqu'ils préparaient ou consommaient leurs produits. Et j'avais à peu près 10% de réponses sur les produits vendus au marché. Donc il y avait cette première pièce qui était en lien avec la pêche. Et ensuite, en 2004... j'avais été invité pour une exposition au CAPC à Bordeaux qui s'appelait Hors d'œuvre et qui était une exposition autour de la nourriture. Et j'avais choisi de montrer quelque chose qui était en lien avec la nourriture, mais qui pour moi était en lien aussi avec la sculpture, avec la peinture, le dessin, la perspective, et qui était un filet de pêche, un filet pélagique. Qui était déployé dans la nef du musée, et c'est un objet qu'on ne voit jamais habituellement puisqu'il est sous l'eau, il est déployé uniquement sous l'eau ou il est à plat, je dirais, sur le quai ou en tas comme le pélagique qui est montré au musée. Et le déployer dans le musée, ça donnait à voir cet objet. Donc c'était le processus inverse.
Ouais.
Et en quelque sorte, je dirais pas que c'est le point de départ, je dirais que je suis assez proche de la mer. J'ai été marin-pêcheur quand j'avais 17 ans. J'ai fait la pêche pendant un an et demi, donc c'est un univers que je connais bien. D'ailleurs, si j'avais pas été marin-pêcheur, je pense que j'aurais jamais pu tester ce filet, parce que je connaissais les pêcheurs du port de la Turballe, ce qui m'a permis d'embarquer, ils l'ont fait gratuitement d'ailleurs, ça m'a permis d'embarquer ce filet sur un de leurs bateaux et d'aller avec eux en mer, mais je pense que si ça n'avait pas été un domaine que je connaissais bien, ça aurait été absolument impossible de le faire, à moins de peut-être de payer beaucoup pour faire cet essai, mais je ne sais pas si ça aurait été possible.
Et ce jour-là, tu as pris un risque. Vous auriez pu perdre le filet dans la mer.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, on pouvait perdre le filet. D'ailleurs, les pêcheurs avaient vraiment peur, qu'on perde le filet. On a fait un coup de chalut qui n'était pas très très long. Normalement, ils font des coups de 6 heures. On a fait un coup d'à peine 2 heures parce qu'ils avaient peur qu'on accroche le filet et qu'on le perde, quoi.
Et un autre risque, c'était que le filet ne soit pas du tout pêchant.
Oui, le filet aurait pu ne pas... Ça, c'était... Il avait quand même été pensé pour être pêchant. Donc ça, je me doutais. Après, je ne sais pas s'il est plus pêchant qu'un autre filet ou moins pêchant. Ça, c'est,
parce
c'est
que vous avez pêché une durée très limitée.
Voilà, une durée très limitée. Il faudrait le tester pendant assez longtemps pour savoir. Et c'est un filet qui est un peu grand pour ces bateaux-là. Donc ça, c'est très difficile de le savoir. Mais je voulais montrer en tout cas qu'il pouvait pêcher ou vérifier le processus jusqu'au... Enfin, aller au bout du processus, en fait.
Est-ce que l'entreprise Logouès est associée avec qui tu as donc effectué le séjour? Est-ce que quelqu'un de cette entreprise était avec vous sur le au moment de la pêche?
Il n'y a personne sur le bateau.
D'accord.
Il n'y a personne, mais je dirais que l'entreprise, enfin au niveau de l'engagement, l'entreprise, c'est pas du tout la même chose que Damien. Je pense qu'il y a eu un engagement, comme je disais tout à l'heure, réel du fabricant de filets, et profond, je dirais, de Jean Rouleau, de l'ingénieur. Il y a eu un engagement, je pense, des pêcheurs aussi. Je pense un engagement de l'équipe de la Biennale aussi, parce que c'était un projet qui n'était pas simple à mettre en place et qui a nécessité un gros travail en amont. Ensuite, il y a eu un engagement dans l'entreprise, mais qui n'était pas... Je pense que le travail de communication, quelque part, était m'a apparu comme quelque chose de presque secondaire. Il n'y avait pas un intérêt, je pense, exceptionnel pour le projet. Et j'ai pas senti une sorte d'excitation réelle, en fait, pour le projet. Donc oui, voilà.
Et tu l'as accepté
Je l'ai accepté.
On peut regarder les affiches.
Oui, on peut regarder les affiches, oui. C'est trop court.
Oui, je pense. Attends.
Oui. Bien sûr. Leur savoir-faire, oui.
Peut-être que le projet de Nicolas est une antithèse de la communication, parce qu'il n'y a rien de visible, il n'y a rien à vendre. Donc c'était peut-être...
Moi, je pense que tout était possible au niveau de la communication. Enfin, au final, je suis très content du résultat et de ce qui s'est passé. J'essaie simplement de donner une... Puisque c'est vrai qu'on est là pour parler aussi d'une expérience et de comment peut se passer une résidence. Donc j'essaie un peu de donner mon sentiment sans jugement, je crois que tout était possible au niveau de la communication et ça aurait pu se passer de manière complètement différente. Il y a eu un dialogue, il y a eu une stimulation. Je pense que tout le dialogue avec Thomas a fait que j'ai fait cette proposition et m'a amené à faire cette proposition-là. Je ne l'aurais pas fait sans le dialogue avec les personnes de chez Le Gouès. J'avais à l'esprit peut-être un travail plus développé, qu'on essaie d'aller plus loin, je dirais, dans les recherches en commun. Là, ça a été un peu... On a évoqué quelques pistes possibles qui, moi, ne me convenaient pas complètement. C'était des choses. Thomas a parlé à un moment donné de, par exemple, de faire un parcours dans la ville qui allait, avec une forme de tour Eiffel, qui allait ramener avec des teasers, qui allait ramener les gens jusque vers le musée. Donc, c'est par exemple de ça que je suis un petit peu parti pour faire ces affiches, même s'il n'y a pas du tout de forme de tour Eiffel. Mais il y a quelques idées comme ça qui sont apparues, des affiches. Ça, je trouvais que c'était une idée qui pouvait être assez intéressante, avec la forme de la tour Eiffel et le plan du filet sur des affiches lenticulaires. Donc en fonction de la position par rapport à l'affiche, on peut voir les deux images qui apparaissent. Mais je trouvais qu'on était trop proche des images et de ce qu'était le projet. Et donc, à partir de là, bon, comme Thomas me demandait vraiment de définir les choses et de définir ce que je voulais, et je ne voulais pas affirmer une chose comme ça, j'ai essayé de reprendre les choses un petit peu au départ, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que la résidence ? C'est une résidence qui s'appelle Source. Qu'est-ce qui pourrait être à la source de ces choses-là ? Et j'ai pensé aux personnes qui avaient permis, qui avaient soutenu ce projet et qui avaient permis à ce projet d'exister. C'est-à-dire, c'est la première personne, c'est Raphaël, qui m'a invité pour la biennale. Il y a eu de l'argent public, de la commande publique qui a été portée par Chantal Crest. Il y avait Raymond Legouas, donc qui, de chez Legouas, qui a soutenu le projet et qui a aussi permis de le faire. Et un des. Alors, j'ai pas fait des photos de, je dirais, de toutes les personnes. Hein. Je prends quelques exemples de personnes qui ont participé au projet. Hein. Et il y avait Rodolphe Lestrade de chez Sodiquin. Qui a soutenu le projet. Donc je me suis dit, à partir de là, ça pourrait être assez intéressant de mettre en scène ces personnes et de faire des affiches qui fonctionnent vraiment comme une campagne de communication, c'est-à-dire ne pas montrer forcément la chose, le projet réel, mais de donner une sorte de fausse piste qui allait renvoyer. Pardon, excusez-moi, ça c'est mon fils, qui allait renvoyer au musée. Et,
c'est un peu grand.
C'est un peu grand, oui, mais je vais essayer. De... Donc des affiches qui allaient renvoyer... au musée, mais sans vraiment montrer le projet. Et donc, évidemment, il y a des points communs avec la pièce du musée, puisqu'on voit apparaître des poissons et on voit apparaître des personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc, il y a quatre images. Une image de Raphaël. Une image de Chantal Crest. Une image de Rodolphe Lestrade, donc qui est un chef d'entreprise qui a soutenu le projet. Et une image de Raymond Legouest, le directeur de la boîte de communication. Voilà. Donc les affiches sont dans des sucettes près des stations de métro. Jusqu'à ce soir encore, je crois. Voilà.
Donc l'affichage a duré une semaine.
L'affichage a duré une semaine.
Est-ce que tu sais si le musée a enregistré plus de visiteurs depuis que la campagne est en cours ?
J'ai aucune idée.
Aucune idée.
mais c'est vrai que c'est ce... Enfin, je pense que c'est... pas facile pour un artiste d'être dans une entreprise ou d'être, je dirais, d'une certaine manière parachuté dans une entreprise. Toi, c'est quelque chose de je pense que tu as eu la chance de tomber sur une personne extrêmement motivée et aussi comme Brigitte le soulignait tout de suite. À partir du moment où on touche à l'activité d'une personne et qu'on a une personne un petit peu engagée en face de soi, tout de suite les choses sont plus faciles. Moi, j'ai des souvenirs dans les écritures productives où j'avais fait du sel ou avec mon les pêcheurs que je connaissais bien, mais avec des agriculteurs aussi, où d'un seul coup je décalais très très légèrement leur activité. Et quand on fait appel à un savoir-faire et on décale très légèrement ce savoir-faire, il y a tout de suite une motivation très très forte.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est en mécénat aussi, c'est très difficile d'être mécéné avec de l'argent liquide. C'est une des grandes difficultés parce que ça rentre dans des plans stratégiques. Et normalement, le mécénat, il n'y a pas de retour sur investissement. Mais malgré tout, on en cherche toujours un. Que quand on va chercher des compétences, on valorise une entreprise. Et même si l'entreprise ne communique pas dessus, une entreprise qui est valorisée autour de ce qu'elle fait, même en interne, c'est une action dont elle a un retour immédiat et un retour qui peut lui servir. Donc évidemment, c'est un terrain de jeu qui est plus productif et plus facile à développer.
Et peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais je pense que quelque part, par rapport à la communication, Le domaine, je dirais, de la création publicitaire et de l'art sont des domaines, je pense, radicalement différents, mais qui peuvent avoir parfois des supports, je dirais, communs. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait pas suffisamment peut-être de décalage par rapport à un quotidien, où le décalage n'était pas suffisamment clair, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une confusion aussi. C'est-à-dire que je pense que des publicitaires peuvent avoir l'impression de faire un peu le même travail qu'un artiste et que l'artiste ne va pas forcément changer ou décaler les choses. Et un projet comme celui-ci était un projet qui pouvait paraître d'un point de vue publicitaire relativement évident, et de prendre un objet très visible comme la Tour Eiffel et très médiatisé, c'était forcément tout de suite quelque chose qui... ça aurait très bien pu être un coup publicitaire, alors que...
Mais est-ce que ton projet pour les ateliers de Rennes, dans sa globalité, est-ce que ce n'est pas une forme de communication au sujet de la pêche, au sujet de l'actualité de la pêche?
Oui, c'est, par rapport à la pêche, c'est... c'est plein de choses, c'est-à-dire que oui, ça peut ouvrir un dialogue sur la pêche, et j'ai été amené sur ce projet à parler pas mal de la situation de la pêche actuellement, qui est une situation qui m'intéresse. Mais après, il y avait il y a à la fois, je dirais, le côté absurde quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose d'absurde dans le fait de transformer un monument comme ça en un objet fonctionnel. Il y a, je dirais, le rapport aussi à la sculpture, c'est-à-dire c'est une sculpture molle en même temps. Il y a le déplacement aussi symbolique, enfin, où la Tour Eiffel représente, je dirais, l'idée du progrès tout puissant au 19e, le fait de déplacer cet objet, d'en faire un objet fonctionnel invisible, ce déplacement replace aussi, je dirais, cet objet dans un contexte beaucoup, enfin pour moi, contemporain, dans la mesure où c'est développer un objet fonctionnel, et aujourd'hui, je dirais que tout développement implique et un petit peu à double tranchant, où on ne peut pas développer un objet, je dirais, gratuitement. Et si on construit un bâtiment, on va penser sur l'impact écologique de ce bâtiment. Et de la même manière, quand des pêcheurs aujourd'hui font un filet, vont penser sur... Enfin, les filets sont extrêmement normés, Et je dirais que le rapport aujourd'hui, je reviens à l'idée de progrès par rapport à la Tour Eiffel, le rapport au progrès n'est pas du tout le même que le rapport qu'on avait au 19e. Et pour moi, ce déplacement, c'est replacer cet objet dans un contexte contemporain aussi. Je ne sais pas si enfin, je réponds.
C'est en tout cas intéressant de mettre ça en perspective avec l'expérience de Damien qui... même si son séjour s'est déroulé au sein d'une entreprise avec un directeur très passionné pour son sujet, ce même sujet ne passionne pas forcément l'artiste Damien Beguet. Le sujet de la crêpe n'est pas son sujet au premier degré. Donc, par contre, tu es plus intéressé par le fonctionnement de l'entreprise autour de la création de ce produit, la fabrication de ce produit, les différentes faces, participer à l'ensemble de ces faces. Tu m'as dit que c'était aussi une occasion pour toi de davantage comprendre le fonctionnement de ce type de société agroalimentaire.
Ouais, le rapport quotidien avec l'entreprise est important. C'est pour ça que l'écriture du projet tel que l'a fait Raphaël est importante parce que c'est offrir du temps. Et du temps, c'est pas forcément beaucoup d'heures. Ce qui est important, c'est de l'étaler dans le temps. Et c'est ça qui permet de semer des graines et d'aller les récupérer un mois ou deux mois après. C'est-à-dire qu'on défend un terrain de jeu dans une entreprise, on s'en va, et après, ça a le temps de mûrir dans les esprits. Puis après, on revient et on revient à la charge, et puis au pire, on en remet une couche, etc. Et ce rapport-là est intéressant. Et c'est pour ça que c'est bien une résidence sur 6 mois, ça casse un peu le rythme habituel d'entreprise et ça permet de faire opérer des changements au sein des esprits. Alors que si on a un jour ou deux jours pour convaincre, on aura peut-être passé plus d'heures, on aura peut-être dit plein de choses, mais on n'aura pas inscrit réellement ce qu'on aura voulu.
En tant qu'artiste, tu brouilles tellement les pistes entre ce modèle qui est devenu l'entreprise et le modèle que tu développes en ayant une marque, la marque qui porte ton nom, que parfois on peut être perdu sur la finalité de ton projet. Alors qu'avec Nicolas, les choses semblent plus claires. Il a pu faire ce projet parce qu'il y avait justement les ateliers de Rennes, il y avait l'invitation de Raphaël, il y avait la possibilité de rentrer en contact avec plusieurs entreprises. Donc le projet dépend de ce montage complexe de la collaboration de plusieurs interlocuteurs. Et on peut peut-être, hâtivement ou à tort, avoir le sentiment que tu as mieux réussi une campagne de communication que ce que l'entreprise aurait pu faire elle-même, peut-être. Qu'il y a une forme de concurrence, étant l'artiste et le publicitaire étant les deux les experts de l'image, mais n'ayant pas les mêmes finalités.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit une question de mieux, c'est-à-dire que pour moi, c'était, il fallait que cette campagne de communication ait quelque chose de spécifique, que ça puisse ajouter quelque chose. Et je pense qu'au final, c'est la campagne de communication est un travail, et vraiment un travail qui est presque indépendant de l'autre. Et c'est ce qui est intéressant. Je pense que si ça avait été juste une communication sur le projet, ça n'aurait pas forcément été intéressant. Mais c'était ce qui était délicat, c'est de ne pas être juste dans une illustration du projet, quoi. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est pas une question de faire mieux ou moins bien que l'entreprise de communication, mais c'est d'avoir les personnes de chez Le Gouès avaient un avis justement sur la question. Mmh. Et quelque part, j'étais, je pense, à demi pris au sérieux, c'est-à-dire que ce que je pouvais proposer, c'était pas une question de concurrence. Moi, je voulais pas du tout me placer en concurrence, mais il y avait quelque chose, je pense, qui était il y avait quelque chose peut-être de trop, enfin, à la fois c'est extrêmement éloigné et trop proche, quoi.
Et puis c'est perturbant quand quelqu'un d'extérieur qui vient d'une autre profession utilise le langage de ses interlocuteurs. Moi, ça m'est arrivé à HEC où j'arrivais avec des codes esthétiques et un discours corporate dans un milieu corporate qui était censé leur appartenir. Mmh. Évidemment, le vis-à-vis peut être jugé comme étant une sorte de violation.
Ouais. Donc, comme vous pouvez le constater, les sources engendrent automatiquement ce genre de discussion, on dérive de volet source pour parler de la publicité ou pour parler de la logique d'un fabricant des crêpes, etc. Donc, je propose qu'on ouvre le débat avec la salle.
J'aimerais faire une petite parenthèse pour expliquer ce qui est à l'écran.
Pardon.
Parce que j'en ai pas parlé. C'est des affiches que j'ai produites pour avoir une présence dans l'entreprise quand j'y étais pas. Et donc, je laissais une trace. Et elles sont un peu moches, mais au niveau esthétique, ça avait un sens très précis. C'est qu'ils ont chez Wahoo un réfectoire qui est blanc, carrelé blanc, avec des frigos et des congélateurs blancs à l'intérieur. Il n'y a absolument aucun point de lumière et c'est une salle de repos et où il y a des distributeurs de boissons. Et donc moi, je leur ai fait une affiche arc-en-ciel qui était collée sur le frigo quand j'étais pas là. Donc c'est une façon d'occuper un terrain de jeu et d'entretenir un dialogue à distance avec les salariés de l'entreprise.
Une autre méthode que tu as mis en place aussi pour communiquer avec les salariés, c'est de leur laisser voter entre 3 différents noms proposés par toi pour la crêpe qui sera à distribuer.
Ouais, j'ai fait un mini concours pour avoir leur avis et savoir quel logo, dans l'idée de créer une nouvelle recette et une nouvelle crêpe, quel logo leur paraissait le plus intéressant.
Ouais. Donc, la participation au vote était relativement faible, tu m'as raconté.
Je pense que beaucoup de personnes se sont pas senti forcément à l'aise avec l'artiste parce que quand j'ai fait ma présentation, on a pas mal discuté, on a eu un échange, donc je pense qu'une bonne partie était en mesure de comprendre une logique, mais la comprendre qu'à moitié. Mais comprendre un travail artistique qu'à moitié, c'est déjà en soi pas mal, et c'est même une finalité souhaitable. Et par contre, quand on n'a pas intégré ça du tout, que on est dans une logique de consommation où un film se voit jusqu'à la fin et on en comprend la fin et le devenir des personnages, quand on a un rapport comme ça un peu complète des éléments qu'on consomme, évidemment quand on est face à une production d'artiste qui est d'une certaine façon en tant que spectateur une partie réinventée par le spectateur, ça crée beaucoup de mise à distance d'un public, une sorte d'intimidation. Et je pense que aussi quand on leur demande de s'engager là-dessus, ils se sont dit là je vais sur le terrain de l'artiste et moi je m'y sens pas bien. Et je pense que c'est une des raisons que j'identifie de la difficulté qu'ont les artistes et l'art à entretenir un rapport décomplexé avec son public. Je sais pas si tu quelle relation toi tu vois, mais je trouve que, et la notion de malentendu, pour moi, est une valeur intéressante et peu assumée comme une valeur. Et je trouve que les sources, c'est un malentendu entre un artiste et une entreprise. Et si on l'accepte comme quelque chose d'extrêmement positif et porteur, ça change complètement le rapport aux choses. Mais intellectuellement, accepter qu'un malentendu soit quelque chose de génial, ça me paraît compliqué.
Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, sur ce que tu appelles le malentendu, ce qu'on peut appeler une coupressence, on peut effectivement constater sur les 14 sources que la motivation des artistes n'est pas la même que la motivation des entreprises ou même de différentes personnes au sein de l'entreprise.
Mais même le malentendu, c'est qu'on se trompe sur les attentes de l'autre. Et, Et ça, en soi, pourquoi pas ? Faut pas essayer forcément de résoudre ça.
Mais en ce cas, il faut qu'il y ait un après-œuvre, savoir comment l'entreprise, aujourd'hui, l'entreprise Christian Faure, comment aujourd'hui, quel est son sentiment vis-à-vis de ce projet ? Est-ce que tu as des échos ? Est-ce que tu es toujours en échange avec lui ?
Oui, mais je crois que c'est difficile. C'est difficile parce que moi je ne suis pas en mesure de tout dire mes ressentiments auprès de Christian Faure et j'ai envie d'en garder pour moi. Mmh. Et je pense que lui aussi et donc on c'est pas sûr qu'on a envie de tout rendre apparaître. Mmh. Et en plus là encore, on n'a pas fait notre liste de notre côté. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément mis des mots toujours sur les impressions qu'on avait. Mmh. Alors, est-ce que c'est utile de le faire après coup ? Je trouve que c'est la base même d'une expérience, c'est que l'expérience, elle se consomme dans le temps.
Oui.
Et puis après, cette expérience, il y a des éléments qu'on va formaliser à travers d'autres expériences.
Mais ma question, c'est plus de savoir si ce malentendu peut continuer, peut se poursuivre, même après la réalisation de l'œuvre. Ou est-ce que c'est la fin du malentendu ?
Ben, au moment où il n'y a plus un contact et un enjeu commun, je pense qu'il y a d'une certaine façon, oui, une rupture. Mais en fait, ça part d'une connerie, l'idée de malentendu. C'est Michel Blanc dans Les Bronzés qui est sur un plan de drague et il fait « on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher ». Et je trouve que c'est déjà en soi une entreprise.
C'est une notion très connu que le mariage est fondé sur le malentendu et on a souvent quand on préparait le volet source dans le jargon en interne utilisé on va créer des couples, le mariage entre tel et tel, etc. Donc on est effectivement sur ce vocabulaire en partie.
Des questions ?
Oui.
Oui, c'est pas nouveau, mais quand j'ai fait l'exposition le jour de la journée professionnelle pendant le vernissage, j'étais obligée de me dire pour certaines œuvres, notamment celle de Nicolas, que ce qui aboutissait, enfin, c'est peut-être pas du tout un aboutissement, mais ce qui rendait compte de ce qui avait été fait pouvait parfois être décevant. Alors peut-être que mon attente n'était pas la bonne, mais quand je suis venue au musée des Beaux-Arts, j'ai eu du mal à... Je connaissais pas le premier travail, donc c'est vrai qu'on est obligé d'explorer, de chercher. J'ai mis du temps à trouver les diapositives avec les photographies des personnes qui avaient mis en place ce travail. Et je n'ai pas eu de crêpes pendant le vernissage parce qu'il y avait trop de monde au couvent. Et on se pose ça depuis des années et des décennies peut-être par rapport à ça. Mais pour moi, l'œuvre, elle n'est pas dans les salles d'exposition. Donc c'est un peu fou de se poser cette question. Et c'est même en même temps tout à fait normal. Mais du coup, on sort de là. Et s'il y a un public qui a boudé aussi ça et qui râle après ça à Rennes et les gens qui sont venus voir, et c'est dommage parce que c'est une aventure extraordinaire par ailleurs et qu'on peut quand même passer à côté, dont notamment les personnes employées dans les entreprises. Voilà, donc je me posais toutes ces questions-là, mais qui ont été abordées ce matin par Raphaël aussi. Voilà, et puis aussi cette rencontre, quelque chose qui me choque et qui est aussi évident, c'est que l'artiste est un travailleur à part entière, dans un domaine complètement différent, et que finalement c'est le monde du travail qui rencontre un travailleur. Alors, c'est très difficile à aborder, mais c'est un travailleur fragile qui travaille dans l'imaginaire, qui a justement un fonctionnement économique fragile et qui rencontre une structure de travail avec une structure économique riche. Mais est-ce que c'est un rapport de force? Enfin, comment? C'est plein de questions dans tous les sens, mais...
Sur les 14 expériences, il y a des artistes qui ont évoqué, qui ont été face à cette réalité, qui se sentissent très fragilisés face à la condition de travail des salariés de l'entreprise et qui ont visualisé ce hiatus, effectivement. L'obligation pour l'artiste de tenir un rythme, de produire, parce que, étant donné que l'exposition était programmée à une date précise, c'était dans l'intérêt de l'artiste de produire une œuvre à montrer le 10 mai, le 11 mai, et en même temps, l'artiste se sentait dans une forme d'engagement auprès de l'entreprise pour effectivement produire quelque chose. Ensuite, je pense qu'il y a eu un processus plutôt intéressant sur le fait de ne pas satisfaire l'entreprise. L'engagement, c'était d'aboutir à une forme de résultat, quelque chose qui sera montré, assumé par l'artiste. Mais je ne pense pas que sur les 14 sources que nous avons suivies, qu'il y a une artiste qui s'est pliée à la logique de l'entreprise, qui s'est sentie écrasée par l'entreprise.
C'est une volonté de revenir aux valeurs de l'immatériel aussi, au travers... Enfin...
Oui, je crois que... Ça a été un petit peu abordé ce matin et je trouve que c'est une question très très importante et je pense que quand un artiste développe un travail artistique, il doit absolument se la poser, c'est la question de la raison sociale et évidemment la relation qu'il entretient aux autres. Et la raison sociale d'une entreprise est relativement simple, c'est de gagner de l'argent. Et c'est ça. Raison est celle-ci, aucune autre. Donc des fois on peut ne pas comprendre sa logique, mais au moment qu'on a dit ça, il suffit d'aménager ça dans une société. Un artiste, c'est plus compliqué parce que sa raison sociale, il est censé la réinventer, la recontextualiser. Et puis elle n'est pas forcément un terrain de jeu arrêté, c'est quelque chose qui se déplace et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans les arts plastiques, c'est ce que je trouve passionnant, mais c'est compliqué à intégrer et malheureusement on n'est pas très aidé par notre éducation parce que c'est un terrain de jeu qui est complètement absent. C'est-à-dire que c'est de ce genre de questions-là sont complètement absents de notre système éducatif. Et donc, quand vous, en tant que médiateur pour un certain lieu d'exposition ou quand les artistes font de la médiation auprès du public, ils mesurent ce fossé-là et ils sont obligés d'une certaine façon de refaire une sorte de remise à niveau pour qu'on ait un dialogue commun. Et donc, évidemment, dans la Biennale, elle subit ça, d'une certaine façon. Et s'il y a des gens mécontents et qui parlent de la Biennale avec une grosse incompréhension, eh ben, c'est dû à un état des lieux de la culture des arts plastiques dans notre pays.
Et sur le côté déceptif, je pense que aussi, je pense que c'est ici... Peut-être que ça apparaît de manière plus flagrante parce que le thème de la Biennale fait que tout le contexte d'élaboration des œuvres est mis en avant, mais je pense que c'est vrai pour toute œuvre, c'est-à-dire que un artiste va choisir de montrer quelque chose et ce qu'il choisit de montrer ne reflète pas forcément la totalité du travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un choix, il y aura telle chose à voir. Mais il y a un contexte d'émergence de cette chose qui est à voir qui dépasse souvent cette chose. Mais il y a des choix de fait par l'artiste qui sont conscients, je pense, et il choisit de montrer ça, voilà. Et je crois que c'est ici ça paraît un petit peu différemment puisqu'on parle, on travaille peut-être un petit peu plus en amont et le processus de travail est mis en avant de par les résidences et de par le contexte de travail.
J'ai l'impression aussi que ce processus plus global, d'un côté et de l'autre côté, l'artiste qui choisit de montrer ça, le processus est aussi un vivier pour qu'à d'autres moments, l'artiste sorte quelque chose de là pour montrer ça. Donc c'est une forme, c'est peut-être un mot un peu vulgaire, mais une forme d'investissement aussi de la part de l'artiste, parce que ça va lui donner une matière qu'il pourra, encore une fois, entre guillemets, exploiter dans un espace-temps beaucoup plus large que la simple manifestation qui est le prétexte pour le processus. Et c'est dans ce sens que je pense que le volet source est très intéressant. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière qui va au-delà de la première édition des ateliers de Rennes.
J'avais une dernière question. Est-ce que les employés des différentes sociétés et entreprises sont venus, ont été invités à voir les expositions?
Là, il faut adresser la question à Raphaël. Je pense
pour,
que
Lance... Pour Christian Feur, j'ai une réponse. C'est, oui. Alors, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais il comptait louer un bus pour faire un voyage et une visite de l'exposition. Donc, je pense que financé par l'entreprise.
Oui, ben Christelle Lemaire, qui s'occupait des publics, qui vient de partir, aurait pu répondre mieux que moi parce qu'elle est vraiment sur place et qu'elle fait les visites elle. Mais effectivement, tous les salariés ont été invités à venir. Donc soit qu'il y ait un système de groupe et de visites guidées, soit individuellement, puisqu'on a bien entendu proposé des entrées gratuites à toutes les personnes. Donc bon. Dans une forme ou dans l'autre, il aurait été possible de venir. Après, si c'était des visites individuelles, on n'est pas en mesure de savoir qui et combien, et puis leur réaction, en tout cas, malheureusement, évidemment, parce qu'on aimerait bien avoir ces retours-là. Donc on a quand même essayé à deux reprises de les inviter en dehors d'un groupe un peu comme ça canalisé de chaque entreprise, mais là encore, c'était très difficile de les avoir. Voilà.
J'aurais une question. À un moment, vous l'avez évoqué rapidement, me semble-t-il. Parmi les 14 sources, est-ce qu'il y a eu des interventions dans des toutes petites entreprises où il y avait très très peu de salariés?
Oui, Mathieu Mercier a réalisé un séjour dans l'entreprise Thermoforme, qui est composé de 4 employés, le directeur de l'entreprise compris.
Et est-ce que ça a eu, est-ce qu'il y a une grande différence dans l'expérience, sur les effets de l'intégration ou non de l'artiste, etc. Est-ce que ça induit quelque chose de très différent?
C'est un peu plus fragile. Déjà, l'entreprise n'a pas pu participer sur un don en mécénat. Son chiffre d'affaires ne le permettait pas. Donc l'artiste a rapidement pris la décision de travailler avec cette entreprise en dehors d'une logique d'honoraire. Avec Raphaël, Mathieu Mercier a pu trouver une solution pour ses déplacements. Et avec l'entreprise en question, un accord, mais qui n'était pas un accord initial. C'est un accord qui s'est mis en place lors de séjour, qui s'est étendu quand même sur un certain nombre de jours, de la production d'un nombre de pièces. Pour l'ensemble, l'entreprise serait payée et l'artiste pensait pouvoir vendre les pièces. La fragilité de cette source, ou de ce source, c'est que l'entreprise, entre-temps, a eu une très grosse commande et a dû mettre le projet avec l'artiste un peu de côté, parce que, étant vraiment dans une économie fragile, l'entreprise était obligée de canaliser ses efforts sur cette grosse commande qui donc arrivait à un moment malheureux pour l'artiste. Donc, je pense que à cause de cette fragilité, oui, c'est différent.
De la même manière, enfin, ça me fait penser aux pêcheurs. C'est vrai que c'était, bon, c'est assez fragile aussi.
Ouais, parce ouais, et le Dresden aussi. Ouais.
Enfin, le Dresden, ils sont 60, donc c'est plus important. Mais sauf qu'ils sont dans une situation un peu délicate. Mais les pêcheurs, c'est sont deux bateaux, ils sont quatre d'un côté, six de l'autre. Et je savais pas du tout quand ils allaient rentrer de mer. C'est-à-dire que je les appelais tous les trois jours pour savoir ils étaient en Manche à ce moment-là, et je savais pas quand ils allaient redescendre. J'attendais que les bateaux reviennent pour qu'on puisse embarquer le filet et sortir en mer. Et je n'ai su que deux jours avant qu'on allait partir deux jours après en mer. Et on est parti en mer, et je savais, et c'était quand même 15 jours avant l'ouverture de la biennale, hein, et je ne savais pas combien de temps on allait partir. Je savais qu'on allait partir. Enfin, le pêcheur savait qu'il fallait pour. C'était le 13 mai, la biennale ouvrant le 16, que le 13 mai, il fallait que le filet soit sur le port de la Turballe pour pouvoir le ramener à Rennes. Mais donc je suis parti à peu près 10 jours avant en mer, mais je ne savais pas quand j'allais rentrer. Et on est resté 6 jours. Donc. Je dirais l'économie des petites entreprises, et la pêche c'est quand même relativement spécial, mais fait que les choses sont relativement différentes. Mmh. Quoi. Pas de questions ? Non ? Est-ce que vous avez envie qu'on développe, je ne sais pas, un point précis sur est-ce que vous... Non ? Il n'y a pas d'interrogation ? Il n'y a pas...
S'il n'y a pas de questions, je pourrais faire la conclusion.
Très bien.
En fait, ça prend appui sur un point que j'ai réalisé avec ma collaboratrice. C'est très sec. L'idée, c'était de permettre aux membres de la cellule de réflexion d'avoir une matière assez concrète sur ce qui s'est déroulé. Donc, ce point aborde quatre thèmes. Le déroulement des sources en termes pratiques, le sujet pour lequel porte l'intérêt de l'artiste, les méthodes de travail, la manière de procéder de l'artiste et les rencontres effectuées durant les sources. Donc, c'est pas exhaustif, mais bon, ça aborde un petit peu comment le projet a démarré. Donc, au début de l'année 2007, Raphaël John a répertorié environ 150 entreprises sur la région rennaise qui étaient soit recommandées par un contact, soit repérées par un domaine d'activité particulier qui intéressait un artiste. Ensuite, la méthode consistait à demander à chacun des artistes de choisir parmi cette liste une entreprise pour sa résidence. Et une fois le choix émis, l'entreprise était sollicitée par l'équipe d'Art2Be. Au final, sur une quarantaine d'entreprises contactées, 14 sont acceptées. Les pourparlers avec les entreprises étaient parfois longs. 5 artistes n'ont pas pu commencer leur séjour en temps prévu en novembre 2007. Car un accord n'était pas conclu. Nous avons constaté que les entreprises qui souhaitaient participer donnaient une réponse rapide, alors que les entreprises hésitantes finissaient toutes par décliner, souvent au bout de longues mois d'hésitation et entraînant ainsi un certain retard dans l'organisation de volets sources.
Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je pense qu'en fait, il y a quelque chose, mais je n'ai pas compris.
D'accord.
Voilà. Excuse-moi.
Je crois qu'elle est partie.
Les entreprises participantes exercent leurs activités dans des domaines variés. Le volet source réunit donc 14 entreprises, 3 entreprises d'agroalimentaire, une institution publique, un fabricant de machines agricoles, 2 laboratoires de recherche, dont un scientifique et un industriel, une entreprise de travail temporaire, une entreprise de thermoformage, un centre de relations clients, une agence de communication, un gestionnaire de réseau de transport en commun, un charpentier, un promoteur immobilier, et leur effectif varie de 3 à 5 000 salariés. Ah oui, donc Thermoform, c'est 3 salariés en fait. Les sites des 12 entreprises sont situés dans le département d'Ille-et-Vilaine, les 2 autres sont dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor. La contribution au volet source prenait la forme d'un don au mécénat d'une valeur de 15 000 euros. Le montant du don devait couvrir le coût de production de l'œuvre de l'artiste accueilli, ses honoraires, ainsi que les ajustements nécessaires à la présentation de l'œuvre dans l'exposition. La participation pouvait être un mécénat en numéraire et ou un mécénat en compétences, comme la mise à disposition des moyens matériels ou de personnel, le temps de réflexion et d'échange avec l'artiste, ainsi de suite. Bon, je pense que peu d'entreprises ont valorisé un apport en compétences en mécénat. Il y a eu un don au mécénat et un apport en compétences non valorisé. Quelques entreprises avaient déjà touché à cette problématique d'essayer de valoriser un don au mécénat en compétences et ils étaient heurtés à des grandes difficultés sur le plan fiscal. Donc, quelques motifs de participation. Donc, la proposition de participer à la biennale pour le volet source était adressée à la direction des entreprises et la négociation sur les modalités de participation se déroulait donc également avec ces directions. En revanche, il était clairement indiqué que celle-ci ne pouvait ni interférer dans la démarche de l'artiste, ni orienter son travail. Cependant, les artistes pouvaient, selon leur pratique, dialoguer, échanger, travailler tant avec les salariés qu'avec les membres de la direction. Quelques entreprises ont délégué le suivi de la résidence à une personne référente, interne à l'entreprise, lui attribuant de ce fait le rôle d'un médiateur. Cela s'est produit alors ainsi lorsque cette personne médiatrice était le véritable moteur de projet. Nous avons récolté quelques raisons invoquées par les directions motivant leur participation au volet source. En montrant aux salariés la manière dont travaille un artiste, leur faire prendre conscience de l'importance de s'adapter à des nouvelles situations, donner une image plus intéressante de travail effectué dans l'entreprise et, en arrière-fond, le souhait de toucher un plus grand nombre de candidats qualifiés lors de recrutement, expérimenter un nouveau produit, expérimenter un nouveau champ d'application, sensibiliser une nouvelle clientèle, créer de nouvelles impulsions par la collaboration des acteurs de différents domaines, obtenir des pistes pour réorganiser les espaces de travail ou de repos. Donc, les durées de source, on a déjà évoqué le principe de 5 semaines sur une période de 5 mois. Et parfois, ce principe n'a pas été suivi pour plusieurs raisons. Soit l'artiste rentrait en source trop tard, soit l'artiste avait un projet qui ne justifiait pas que le source commençait en novembre, mais infiniment plus tard, comme c'est le cas avec Nicolas Floch. et de manière générale, une fois le projet, les contours d'un projet établi, le travail de l'artiste demandait parfois beaucoup de présence hors l'entreprise. Pour Samuel Bianchini, l'œuvre, la technologie de l'œuvre sera étudiée et améliorée pendant le temps de l'exposition. Donc c'est le but de la collaboration entre les ateliers de Rennes et France Télécom R&D, c'est Orange Labs maintenant. Pendant notre collaboration avec France Télécom, le nom de l'entreprise a changé 3 fois. Donc aujourd'hui, c'est Orange Labs. Donc le principe, c'est de considérer cette œuvre comme un démonstrateur public et donc de l'étudier et de l'améliorer pendant le temps de l'exposition. Donc, le sujet sur lequel porte l'intérêt de l'artiste, là nous avons identifié 4 sujets qui ont motivé le choix des artistes pour les entreprises qui ont retenu leur attention une fois la résidence commencée. Plusieurs sujets parmi les 4 formulés ci-dessous peuvent être combinés par les artistes. Donc, l'objet de l'entreprise, l'artiste s'intéresse de manière directe à l'activité exercée par l'entreprise. Alain Bublex, la menuiserie, avec l'entreprise Les Charpentrices. Samuel Bianchini, la recherche et le développement industriel avec Orange Labs. Le collectif 1.0.3, la recherche en informatique et en automatique avec INRIA Bretagne. Courant faible, le recrutement de personnel pour un travail temporaire avec Gérinter Intérim. Nicolas Floch, la communication avec Le Gouès et Associés. Mathieu Mercier, le thermoformage avec Thermoform. Christina Solomoka, la promotion immobilière avec La Motte Immobilière. Le rapport, deuxième thème, le rapport entre le salarié et l'activité. L'artiste focalise son attention sur le rapport entre le salarié et l'activité de l'entreprise, production et ou service. Alain Bernardini négocie avec les ouvriers de Silky Burel lors de la prise de vue la pose les représentants sur leur lieu de travail. Nadia Lichtig interroge les salariés de Keolis Resostar sur leur travail, mais aussi sur leurs rêves et les chansons qu'ils fredonnent en travaillant. Marie Reinert porte son attention sur la gestuelle de différents métiers présents au sein des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, ainsi que sur le lieu de ce travail. Claudia Triozzi réalise une œuvre en prenant appui sur l'interaction homme-machine dans l'entreprise Sorial. Et Work on Stage, Woos, formule des hypothèses à partir de l'observation de l'organisation sociale et spatiale, ainsi que de leur imbrication au sein de plateaux rennais de centres relations clients de groupe Canal+. Alors, troisième thème, les processus de production de l'entreprise. L'artiste s'intéresse à la manière dont l'entreprise met en œuvre son activité et se concentre sur une ou plusieurs faces du processus. Damien Béguet s'intéresse à travers l'idée d'un goûter à toutes les étapes de fabrication d'un produit alimentaire, créativité, concept, projet, prototype, maquette, conditionnement au sein de l'entreprise SAS Christian Faure. Alain Bublex, l'échange avec les charpenteries constitue une étape de l'œuvre en évolution qui porte sur la conception d'un mobilier darwinien, comme il le dit. Christina Solomoka s'intéresse à la question de développement d'un territoire et à la participation d'une entreprise comme La Motte Immobilier dans les transformations de celui-ci à travers les différents services de l'entreprise. Samuel Bianchini, le collectif 1.0.3 ou encore Mathieu Mercier souhaitent connaître les possibilités technologiques ou techniques développées par Orange Labs, INRIA et Thermoform et ils s'intéressent aux différentes phases de leur mise en application. L'esthétique, quatrième rubrique, l'esthétique de l'entreprise. L'artiste s'intéresse à un ou plusieurs éléments formels spécifiques à l'entreprise. Boris Achour tourne des plans de films dans les locaux vides de l'entreprise Diana Ingrédients. Work on Stage observe l'esthétique spatiale et sonore des lieux de travail du centre relations clients de groupe Canal+. Nadia Lichtig collecte des sons ambiants au sein de réseaux de transport en commun gérés par Keolis Réseau Star. Damien Béguet s'intéresse au logo et à la mascotte de la marque portée par SAS Christian Faure. Méthode de travail, la manière de procéder de l'artiste. Nous avons détecté trois manières, types de procédés, souvent combinés entre elles. Récolter des matériaux, effectuer des prélèvements. L'artiste enregistre des données par image, vidéo et son et effectue des entretiens avec les salariés. Il se sert de ces matériaux de manière directe ou indirecte pour produire hors de l'entreprise une œuvre. Il arrive également que les prélèvements servent d'éléments préparatoires à la production d'une forme dans le lieu et dans le temps de travail de l'entreprise. Donc ici, nous avons Nadia Lichtig, le collectif Work on Stage, Boris Achour, Alain Bernardini, Marie Reinert, Claudia Triozzi, Christina Solomoka. D'autres artistes vont agir comme un client, jouer au client. L'artiste sollicite les services d'une entreprise, comme le ferait n'importe quel client, pour exécuter une tâche. Courant faible, qui demande à l'entreprise gérantaire intérim de recruter des intérimaires pour participer à un atelier d'écriture. L'entreprise de communication Logo S.A. Associé, spécialisée dans le bâtiment et l'habitat, conçoit et réalise une campagne publicitaire autour de la tour pélagique. Donc, plus de nuances de la part de Nicolas Floch. D'autres artistes vont utiliser des compétences ou alors échanger des compétences avec l'entreprise. L'entreprise met à disposition de l'artiste une connaissance ou une compétence. L'artiste l'utilise afin de réaliser une production différente de celle que l'entreprise produit habituellement dans son activité. Donc on a l'exemple d'Alain Bernardini qui travaille avec le service de conception assisté par ordinateur de Sulky Burel pour concevoir et fabriquer la sculpture intitulée La machine Sulky Bernardini. Damien Béguet qui travaille avec les équipes de plusieurs services de l'entreprise SAS Christian Faure pour la conception et la fabrication d'une nouvelle crêpe. Samuel Bianchini, qui réalise une installation interactive à partir de plusieurs briques technologiques développées par Orange Labs. Le collectif 1.0.3, qui travaille donc avec IRISA, le pôle de recherche et de développement en réalité virtuelle. Mathieu Mercier, avec les indications de Philippe Coin de Thermoforme, se rend compte des possibilités des limites de thermoformage et décide de travailler sur une série d'objets en plastique ayant la forme de fenêtre. Ensemble, ils ont dessiné le plan et fabriqué la fausse fenêtre qui sert de moule. On a aussi sous cette rubrique Christina Solomoka qui utilise pour ces maisons, des matériaux basiques employés habituellement par la mode immobilier et qui demande également à l'entreprise de l'aider à effectuer des études de résistance au vent pour la maison située à l'extérieur. C'est la même chose en ce qui concerne Alain Bublex, c'est aussi se servir des compétences de l'entreprise pour faire une œuvre qui est normée, c'est-à-dire acceptée par l'entreprise qui contrôlait la biennale en termes de sécurité pour les publics. Pour finir, on a abordé un peu les rencontres effectuées durant les sources. Durant sa résidence, l'artiste a été en contact avec un nombre variable de personnes employées. Mis à part les premières présentations souvent un peu formelles, nous avons déterminé trois types de rencontres à travers l'expérience des quatre artistes. Ici, il s'agit de Marie Reinert au sein des archives départementales,
Alain Bernardini au sein de Silky Burel, Christina Solomoquin au sein de La Motte Immobilière et Damien Beguet chez SAS Christian Faure. Donc la première présentation de la biennale et de l'artiste devant les salariés de l'entreprise Source était effectuée par une personne de l'équipe Artobi, soit seule, soit accompagnée de l'artiste. L'entreprise s'occupait de convier le personnel à cette présentation. En complément, une information sur mesure a été proposée par Artobi sous forme d'affichettes ou de lettres posées sur des comptoirs. Dans certaines entreprises, cette information fut diffusée par lettre électronique. Ensuite, on voit avec Damien que lui-même a trouvé plusieurs moyens pour davantage diffuser une information sur sa présence au sein de l'entreprise. L'échange. L'échange implique l'idée d'une réciprocité et signifie qu'un élément est donné et qu'un autre est reçu en contrepartie. Dans le cas des sources, l'artiste et le salarié présentent réciproquement leur travail. Marie Reinert a rencontré individuellement 30 personnes au sein de services culturels, des archives départementales. Elle a pris connaissance de leur travail, leur a présenté le sien et leur a donné des éléments sur l'art contemporain. Christina Solomoka a discuté et pris connaissance du travail d'une dizaine de personnes et elle a eu un véritable échange avec 4 personnes. Elle les a rencontrées plus de 3 fois et s'est appuyée sur leurs connaissances pour réaliser son œuvre. Alain Bernardini estime avoir échangé de cette manière avec 40 personnes. Damien Beguet pense avoir échangé avec 8 personnes qui sont plus particulièrement des personnes ayant des responsabilités dans l'entreprise, directeur, responsable technique, responsable qualité. Ces personnes lui ont apporté des conseils. L'artiste agit alors comme une sorte de médiateur de son propre travail et apporte plus largement une sensibilisation à l'art contemporain. Ensuite, il y a la participation. La participation implique que le salarié aide l'artiste, qu'il prend part à son travail. La participation peut également être le prêt de matériel ou la mise à disposition de personnel ayant une qualification spécifique. L'artiste et le salarié mettent en commun des connaissances ou des compétences et travaillent ensemble. Marie Reinert a été assistée lors du tournage de son film par 8 personnes. 3 photographes de sa gifle ont participé et 5 autres personnes ont agi comme des assistants lors du tournage. Pour Alain Bernardini, 4 personnes ont participé à la conception et à la réalisation de la machine inutile, un ingénieur, 2 monteurs et un peintre. L'entreprise a également mis à disposition de personnel pour installer la sculpture dans l'exposition. Pour la fabrication des crêpes, Damien Beguet explique qu'une 15aine de personnes ont participé à cette phase. Ce groupe était constitué d'une part des manutentionnaires et d'autre part des personnes faisant partie du huit personnes qui ont été évoquées plus haut et qui échangeaient avec l'artiste. Donc, la collaboration. La collaboration induit l'élaboration d'une œuvre en commun. La collaboration induit l'élaboration d'une œuvre en commun. Pour Marie Reinert, il y a eu une collaboration avec 20 personnes des archives qui se sont portées volontaires pour son projet agissant comme acteur-danseur dans son film. Pour Alain Bernardini, il y a eu cette forme de collaboration avec 80 personnes, dont pour environ 2/3, il s'agit d'un échange sur la question de la pose, et pour 1/3 entre eux, qui allait plus loin en inventant des formes au sujet de cette pose, c'est-à-dire comment représenter le salarié sur son lieu de travail. Voilà, des éléments de l'étude.